أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Des fois, les parents sont très sévères envers leurs enfants pour des actions de leur part. Ils sont très sévères envers leurs enfants. D'autres parents, par contre, sont si indulgents envers leurs enfants pour leurs fautes que l'enfant n'arrive plus à distinguer le bien du mal. Et ces deux comportements ont un effet négatif sur l'éducation de l'enfant. Être trop sévère envers l'enfant, empêcher l'enfant à tout bout de champ de faire ceci ou de faire cela, sans présenter aucune preuve, transforme l'enfant en rebelle. Et après un certain âge, l'enfant va faire fi même des conseils légitimes. De même, soutenir l'enfant en toute chose, comme je l'ai dit, eh bien, soutenir l'enfant en toute chose a un effet négatif sur l'enfant. Cela concerne en particulier ses enfants qui sont à mi-chemin entre l'enfance et l'adolescence. Les comportements des parents corrompent ces enfants, en particulier le comportement du père. À cet âge, il faut avoir recours aux arguments quand on essaye de convaincre les enfants. En particulier à notre époque, étant donné que les enfants ne sont pas influencés uniquement par leur milieu restreint, ils sont influencés par le pays dans son ensemble, voire ils sont influencés par l'environnement du monde entier. En pareille situation, les pères en particulier doivent être vigilants concernant l'éducation de leurs enfants, à savoir quand être sévère, quand être indulgent, comment convaincre l'enfant. Cette responsabilité incombe au père. Il ne faut pas reléguer cette responsabilité uniquement aux mères. Comment le Messie promet l'Islam éduquait-il ses enfants? Hadrat Muslim Maud, radiyallahu anhu, cite un incident à cet égard. Hazrat Muslim Maud nous explique ici ce qui est halal, ce qui est licite, et ce qui est toyib, ce qui est sain et convenable à la consommation. Il déclare : Sachez que Dieu a créé une diversité d'animaux pour des tâches diverses. Certains ont été créés pour leur beauté, pour le plaisir du regard, d'autres ont été créés pour leur chant mélodieux, D'autres ont écrit pour la consommation. Étant donné que leur chair est succulente, certains sont utilisés pour des vertus médicinales. Il ne faut pas consommer ces animaux pour la simple raison que ce sont des animaux et que leur consommation est licite. Il se peut que la chair d'un animal ne soit pas nocive, mais que cet animal soit le prédateur des insectes qui nuisent aux champs ou à la santé humaine. Il y a par exemple certains oiseaux qui sont peut-être licites à la consommation, mais l'État interdit de les tuer. Au Pakistan, il est interdit de tuer ces oiseaux car ils mangent les insectes qui affectent les champs. Le deuxième calife déclare que la chair de ces oiseaux sera certes licite et toyib, c'est-à-dire convenable à la consommation. Cependant, eu égard à l'avantage de l'humanité, la consommation de sa chair ne sera pas convenable. Certes, ils sont halal, ils sont licites, ils sont toyib à la consommation, mais il faudra prendre en considération où se trouve l'avantage majeur. Il faudra sacrifier ses avantages personnels en faveur de l'avantage de l'humanité. Il faudra préférer l'avantage de l'humanité au sien. Car si l'on consomme ces animaux, l'on sera privé d'autres avantages. Hazrat Muslim déclare : On m'a enseigné cette leçon dès mon enfance. Durant mon enfance, j'avais chassé un perroquet et je l'ai apporté à la maison. Le Messie Promet l'Islam m'a dit en le voyant : Mahmoud, sa chair n'est pas illicite à la consommation. Cependant, Allah n'a pas créé tous les animaux pour qu'ils soient consommés. Certains beaux animaux ont été créés pour être regardés, afin que l'on en tire un plaisir visuel. Certains animaux ont été créés pour leur chant mélodieux, un chant mélodieux qui fait plaisir à l'oreille. Allah a créé des faveurs pour chaque faculté de l'homme. On ne doit pas prendre toutes ces faveurs pour les accorder uniquement à la bouche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tuer tous ces animaux pour le plaisir de la bouche pour en manger. Il faudra prendre en considération ces autres avantages. Il ne faut pas uniquement se soucier de son plaisir gustatif. Le Messie Promet l'Islam a dit : Vois comment ce perroquet est beau. Il a dit : Vois comment ce perroquet est beau. Il est très beau assis sur une branche. Voilà donc une belle façon d'éduquer autrui. Non seulement cela aide l'effet sur le cœur, mais cela nous fait comprendre davantage ce commandement qui déclare qu'il faut consommer ce qui est halal, ce qui est licite et ce qui est taïb, ce qui est convenable, mais qu'il faudra aussi prendre des précautions à ce propos. Allah a donné des ordres concernant ce qui est halal, ce qui est toyib. Or, la définition de ce qui est toyib, de ce qui est convenable, change selon le contexte. Certains de ces animaux ou de ces oiseaux qui comportent d'autres avantages sont certes licites à la consommation, mais ne sont pas toyib, mais ne sont pas sains, ne sont pas convenables. Car leurs avantages sont plus importants ailleurs. Ces avantages sont plus importants que le fait de consommer leur chair. Je vous présente d'autres récits de Hadrat Muslim Aoud radiallahu anhu. Le Messie Promet l'Islam est venu au monde afin de débarrasser le monde d'innovation et afin de présenter les beaux enseignements de l'islam. Telle était sa mission. Il est donc impossible que la personne du Messie Promet l'Islam puisse être le vecteur de la transmission d'innovations. Il est impossible que le Messie Promet l'Islam puisse répandre des innovations qu'Allah nous en préserve. Hazrat Musleh Maud rapporte, le Messie premier l'Islam s'était fait prendre en photo. Cependant, un jour, on lui présenta une carte postale sur laquelle il y avait sa photo. Il déclara, « Je ne peux permettre cela. » Et il enjoignit aux membres de la Jamaat de ne pas acheter cette carte postale. En conséquence, personne n'eut le courage de le faire. Or, aujourd'hui, dans certains lieux, certains sont en train de diffuser cette carte postale sur Twitter, sur WhatsApp. D'aucuns ont eu entre les mains ces cartes et tentent de les diffuser. Des cartes qui ont été imprimées à une époque qu'ils ont eues de leur aïeux ou qu'ils avaient achetées d'une ancienne librairie. Ceci est fort condamnable, on doit arrêter pareille pratique. Le Messie premier l'Islam s'était fait prendre en photo afin que ceux qui habitent dans des coins reculés, en particulier les Occidentaux qui savent reconnaître les gens, puissent, en voyant sa photo, être enclin à chercher la vérité. Mais lorsque le Messie premier l'Islam a constaté qu'on a placé cette photo sur une carte postale et qu'on essayait d'en faire un business, ou il avait peut-être peur qu'on en fasse un business, eh bien il a eu peur que cela n'engendre une innovation. Et suite à cette crainte, il a interdit la circulation de cette carte postale avec véhémence. Dans certains endroits, le Messie premier l'Islam a même dit qu'il fallait détruire ces cartes postales. Ainsi, ceux qui font du business de ces images, ceux qui ont fait de ces images leur gagne-pain, et ceux qui en tirent de gros revenus doivent être vigilants à cet égard. Ensuite, il y a d'autres qui colorient les photos du Messie premier l'Islam, alors qu'il n'existe pas de photo couleur du Messie premier l'Islam. Cette pratique est condamnable, il faudra être vigilant à cet égard. De même, d'autres personnes utilisent à mauvais escient les photos des califes. Il faudra éviter pareille action. On avait débattu à propos du cinéma et du bioscope, un genre de projecteur lors d'une shura. On avait débattu à ce sujet devant Hadrat Musleh Maud radhiyallahu anhu, et il déclara affirmer que le cinéma ou le bioscope ou le phonographe sont mauvais en soi et tout à fait erronés. Le Messie premier l'Islam lui-même avait écouté un phonographe, voire il avait composé un poème qu'il avait fait enregistrer et il l'avait fait écouter aux hindous. Ce poème disait « Cette voix vient du phonographe, cherchez Dieu avec le cœur et non pas dans de vaines paroles ». Le cinéma en soi n'est pas quelque chose de mauvais. Les gens posent des questions à ce sujet et demandent s'il n'est pas interdit de s'y rendre. Le cinéma en soi n'est pas mauvais. Or, dans son état actuel, eh bien, le cinéma pousse vers l'immoralité. Si le sujet traité dans un film a trait entièrement au tablir ou à la tarbiya, et s'il n'y a pas de mise en scène, en ce cas, il n'y aura aucun mal à regarder ce film. S'il n'y a pas de mise en scène, le deuxième calife déclare, selon moi, avoir recours au spectacle pour accomplir le tablir ou diffuser le message est interdit. Ainsi, cela doit suffire pour répondre à ceux qui affirment qu'il n'y a pas de mal s'il y a un peu de musique dans les émissions de la MTA ou sur la radio Voice of Islam qui vient d'être lancée. Le Messie premier l'Islam est venu mettre fin à ses pratiques et à ses innovations. Nous devons conformer nos opinions au but de l'avènement du Messie promis à l'Islam. il n'est point interdit d'avoir recours aux nouvelles technologies. Cela n'est point une innovation. L'innovation gît en fait dans le mauvais usage que l'on fait de ces nouvelles technologies. D'aucuns suggèrent que des films dramatiques traitant des sujets ayant trait au tablir ou à la tarbiya auront de l'effet. Qu'ils sachent que, dès que l'on aura recours à une mauvaise pratique, ou si vous faites de la place à de mauvaises pratiques dans vos émissions, eh bien, des centaines d'autres innovations s'y engouffreront automatiquement par la suite. Pour les autres, il est peut-être permis de lire le Saint-Coran avec de la musique. Un Ahmadi, quant à lui, doit lancer un djihad contre les innovations. C'est pour cette raison que nous devons éviter pareille pratique et faire beaucoup d'efforts en ce sens. Un non-Ahmadi a relaté ce qui peut être qualifié de blague dans un article, mais cela démontre aussi la bêtise d'un mollah. Mais l'on comprend aussi, grâce à cet article, la manière de penser de ces personnes qui croient que ces pratiques sont permises. Dans l'article, on disait qu'une chanteuse arabe chantait une chanson accompagnée d'une musique. On y convient le mollah qui écoutait la chanson tout en se balançant. On en demanda la raison au mollah. L'autre disait, le mollah disait, « Subhanallah, mashallah, Allahu Akbar. Pourquoi se balancer ainsi le corps ?» Et le mollah répondit, « N'entends-tu pas avec quelle voix mélodieuse elle est en train de réciter le Coran ?» Étant donné que la chanson était en arabe, il croyait que c'était des passages du Coran. Quand les innovations se répandent, les opinions s'y changent. Hazrat Muslim Maud Radotananhu a évoqué les médecins et il déclare à ce sujet, les médecins croient lorsqu'ils traitent un malade qu'ils sont les seuls capables à les guérir et qu'il n'est pas important de les faire traiter par d'autres personnes et qu'ils n'ont pas besoin des conseils d'un autre. C'est le cas en particulier en Inde. Le deuxième calife déclare, 99% des médecins indiens pensent que prendre le conseil d'un autre est pour eux une injure. Il n'y a pas le doute que le docteur Rahmatullah, qui était le médecin du deuxième calife, il dit, il n'y a pas de doute qu'il avait une meilleure expérience que les autres assistants chirurgiens. Cependant, cela ne signifie guère qu'il n'a pas besoin des conseils d'un autre. À l'instar du Messie premier d'Islam, quand il était malade, dit Hazrat Muslim Maud, moi aussi, en 1918, j'ai réuni un panel de médecins qui pratiquaient la médecine traditionnelle et européenne, et je consommais les médicaments que me prescrivaient les deux catégories de médecins, car on ignorait dans lesquels Dieu avait mis de la guérison. Si un médecin se croit Dieu, eh bien il peut se croire Dieu, moi je vais l'accepter comme un simple homme. Aujourd'hui aussi, les médecins se fâchent si l'on se fait traiter par un autre. Pareil comportement est condamnable. Il y a certaines personnes qui ne sont pas des médecins, mais qui prescrivent des plantes aux vertus médicinales. Ils ont des formules et ils traitent les malades et leurs traitements sont des plus efficaces. Là où le traitement de la médecine n'a pas d'effet, eh bien, ces traitements ou leurs incantations sont plus efficaces. Hadrat Muslim Maud déclare, Sayyid Ahmad Nur Saib de Kaboul avait une blessure au nez et il s'était fait traiter partout. Il était parti à l'hôpital Nour de Lahore. Il avait fait des radios et avait suivi un traitement Mais la plaie s'est aggravée davantage. En fin de compte, il visita Peshawar et il se fit traiter par un barbier. Il lui prescrivit un médicament qu'il a utilisé que 3 jours et la plaie était guérie. Le deuxième calife déclare, « Il y a des experts maîtrisant différents savoir-faire. Si on préserve leur savoir-faire, cela pourra donner naissance à de nouvelles professions. » Maintenir vivant cette profession signifie faire de la recherche à ce sujet et de demander à ses pratiquants de transmettre ce savoir-faire, de transmettre leurs prescriptions aux autres. Or, dans les pays du tiers-monde, étant donné que ceux qui possèdent cette connaissance ne font pas des efforts pour le maintenir vivant, ils ne progressent pas. Si les gens s'y intéressaient, cela aurait pu donner naissance à d'autres pratiques. Le deuxième calife déclare, les lutteurs et les barbiers savent par exemple comment remettre en place les os. Ils arrivent à dissiper les douleurs anciennes et les os tordus. Certains maîtrisent très bien ce savoir-faire, d'autres quant à eux brisent des os qui sont bien à leur place. Or, il y a aussi de grands experts. On doit acquérir ce savoir et le diffuser. Le deuxième calife ajoute, les anciens qui maîtrisaient ce savoir-faire étaient avares de leurs connaissances et ne l'enseignaient pas aux autres. C'est pour cette raison que cette connaissance a disparu. Étant donné que les anciens ne transmettent pas leur savoir-faire et leur formule aux autres, c'est pour cette raison que ce savoir-faire disparaît. Les Occidentaux, quant à eux, n'agissent pas de la sorte. Ils font connaître leur savoir-faire et ils se bâtissent des fortunes. Il y a certains médicaments qui sont brevetés, or le brevet expire après quelque temps et le médicament devient public. Le Messie Premier Islam racontait qu'il y avait un barbier qui connaissait la formule d'une pommade grâce à laquelle il guérissait des plaies très graves. Les gens le visitaient de très loin pour se faire traiter. Quand son fils lui demandait de lui donner la formule, le père répondait « Deux personnes au monde ne peuvent connaître la formule. J'en ai connaissance, elle restera avec moi. » Et il ne donne pas cette formule à son fils. Il vieillit et un jour, il tomba gravement malade. Son fils lui demanda encore une fois la formule car il pouvait mourir n'importe quand. Le père répondit, « Si tu crois que je vais mourir, eh bien je vais t'en informer. » Mais il ajouta par la suite, « Il se peut que je recouvre ma santé. » Et il n'en informa pas son fils. Il rendit l'âme après quelques heures. Son fils, le malheureux, fut privé de ce savoir-faire en dépit de ses demandes. Il croyait pouvoir en profiter, or il en demeura ignorant en raison de l'entêtement de son père et le savoir-faire de ce dernier ne lui fut d'aucun avantage. Hazrat Musleh Maud ajoute, « L'avarice n'est point le vecteur du progrès, mais celui de l'humiliation. C'est pour cette raison qu'il ne faut point faire preuve d'avarice lorsqu'il est question de connaissance. Au contraire, il faudra répandre cette connaissance. » Hazrat Musleh Maud déclare, « Parfois, cela cause la destruction d'une famille. Transmettre ce savoir-faire n'est pas désavantageux, bien au contraire. La connaissance grandit et je désire faire revivre ces savoir-faire, en particulier ceux qui sont morts. » Parfois, c'est l'arrogance des médecins qui sont la cause de la souffrance des autres. Parfois, c'est l'ignorance qui détruit la connaissance et le savoir-faire. Et le monde est privé de ses avantages dont il était le récipiendaire. Cette attitude est commune dans les pays du tiers-monde ou les pays en voie de développement. La Jamaat Ahmadiyya doit, quant à elle, œuvrer en ce sens afin de mettre fin à cette ignorance. Les gens ont des tempéraments différents. Certains sont très sincères et ils acceptent de gaieté de cœur toute chose. Certains, par contre, sont de nature hâtive. Même s'ils n'ont pas de mauvaises intentions, ils émettent des critiques ou le ton de leurs propos laisse sous-entendre des critiques. Hazrat Musleh Maud a évoqué ces gens. Il déclare, un jour, des gens de ces deux tempéraments se sont réunis au même endroit à l'époque du Messie promis à l'Islam. Le 4 avril 1905, il eut un tremblement de terre des plus terribles. Le Messie promis à l'Islam avait reçu à cet effet de nombreuses révélations, des révélations qui prédisaient ce séisme. Par respect de la parole divine, le Messie promis l'Islam avait pris refuge dans son jardin. Des imbéciles, à l'époque, disaient que le Messie promis l'Islam avait pris refuge dans son jardin en craignant la peste. À l'époque, il y avait une épidémie de peste qui sévissait et il y avait aussi ce séisme qui était prévu. Le deuxième calife déclare « La chose étonnante, c'est que j'ai entendu des Ahmadis qui disaient cela, à savoir que le Messie promis l'Islam avait peur de la peste, tandis que le Messie promis l'Islam n'avait jamais abandonné sa maison par peur de la peste. Étant donné qu'il avait reçu de nombreuses révélations prédisant le tremblement de terre, il s'est dit qu'il serait plus approprié de prendre refuge dans le jardin. Et il encouragea aussi les autres Ahmadis à en faire de même. Étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, certains y avaient placé des tentes, d'autres avaient placé des tapis sur des briques pour en faire des huttes. En tout cas, tous étaient en compagnie du Messie promis l'Islam. Ceux qui sont de nature hâtive émettent des objections sans réfléchir. Les Ahmadis, quant à eux, doivent éviter pareille pratique. Hazrat Musleh Maud radiallahu anhu a aussi décrit l'état du Messie promis l'Islam lorsqu'il prononçait le sermon révélé. Il déclare à ce sujet, Dieu avait révélé au Messie promis l'Islam qu'il devait prononcer le sermon de la ride en langue arabe et que la connaissance viendra de la part de Dieu. Jamais auparavant, le Messie promis l'Islam n'avait prononcé le discours en langue arabe. Le deuxième calife déclare, je me souviens du moment où le Messie promis l'Islam avait prononcé ce discours. J'étais jeune à l'époque, dit Hadrat Musleh Maud, et je ne pouvais pas comprendre la langue arabe. Or, le Messie promis l'Islam était dans un bel état, resplendissant tant et si bien que j'ai écouté son discours du début jusqu'à la fin, quoique je ne pouvais comprendre un seul mot. Hadrat Musleh Maud a aussi évoqué l'importance de la mosquée Mubarak de Qadian. Ceci a aussi été évoqué dans un article du journal Al-Fazl, à savoir que certains ont demandé quelle était la mosquée Mubarak évoquée dans l'annonce publiée avec la khutba Ilhamia. On a posé cette question à Hadrat Musleh Maud et le deuxième calife a demandé qu'on lui présente le sermon révélé. Il a lu l'annonce et il a déclaré que c'était la mosquée que le Messie promis l'Islam avait fait construire. Et il a aussi ajouté qu'un jour, Ummul Mu'minin, l'épouse du Messie promis l'Islam, était tombée malade. Elle était malade pendant 40 jours. Un jour, le Messie promis l'Islam a dit « J'ai reçu une révélation à propos de cette mosquée ». Une révélation qui se lit ainsi Mubarakun wa Mubarakun wa kullu amrin Mubarakun yuj'alu fi. Le Messie promis l'Islam a déclaré que puisque c'est une révélation reçue à propos de cette mosquée, je vais vous offrir le médicament dans cette mosquée. Il voulait offrir ce médicament dans la mosquée à Hadrat Ammajan. Donc, il lui a donné ce médicament à l'intérieur de la mosquée et en l'espace de 2 heures, Ummul Mu'minin s'est rétabli. Hazrat Musleh Maud Radhiyallahu conseille les médecins à servir la religion et à s'acquitter de leurs devoirs en ce sens et à faire des efforts en ce sens. Le deuxième calife déclare, les malades sont facilement influencés par la vérité. Un médecin avait un jour demandé au Messie promis alayhi salam, comment puis-je servir la religion? Le Messie promis alayhi salam lui a répondu, prêchez le message de l'islam et de l'ahmadiyya à vos malades. C'est là une bonne occasion car le cœur du malade est très sensible. Voilà les sentiments qui doivent animer les médecins d'aujourd'hui. Grâce à ces intentions et grâce à ces actions de leur part, ils pourront, d'une part, acquérir les biens terrestres, et d'autre part, ils auront aussi l'occasion de servir la religion, et ils pourront ainsi mériter les faveurs divines. Ces temps-ci, en Occident, on fait beaucoup de bruit en Occident concernant le port du voile. On le fait au nom des droits de la femme, ou pour mettre fin, dit-on, au terrorisme, ou tout simplement pour critiquer l'islam sans aucune raison. Allah a évoqué plusieurs aspects de ce sujet dans le Saint-Coran, à savoir quelles sont les règles de la modestie islamique et quelles sont les conditions. On trouve mention de la beauté des femmes, et il est dit à ce sujet, « Illa ma zahra minha ». Le deuxième calife, Hadrat Muslim Aoud, a expliqué ce sujet en présentant les injonctions du Messie promis alayhi salam. Il déclare, « Illa ma zahra minha » signifie « ces parties qui sont apparentes d'elles-mêmes et que l'on ne peut cacher en raison de l'aspect physique du corps. » Il y a ces parties que l'on ne peut cacher en raison de l'aspect physique du corps, à l'instar de la taille. La taille aussi est une beauté, mais on ne peut pas cacher la taille. C'est pour cette raison que selon la charia, il n'est pas empêché de la montrer. Parfois, en raison d'une maladie, on est contraint de montrer une partie de son corps au médecin. Cela est permis, en accord au Saint-Coran. Le Messie promis alayhi salam a même déclaré que si un médecin recommande à une femme de ne pas se couvrir le visage et que si elle se couvre le visage, eh bien cela va affecter sa santé. Et si le médecin lui recommande de ne pas se couvrir le visage et de sortir à l'extérieur, et que si elle ne sort pas à l'extérieur et se couvre le visage, sa santé sera affectée, eh bien, il sera permis à cette femme de marcher le visage découvert. Selon certains juristes, si une femme est enceinte et qu'il n'y a pas de sage-femme compétente et que les médecins disent que si elle ne se fait pas accoucher par un médecin compétent, sa vie sera en danger, eh bien, il lui sera permis de se faire accoucher par un homme. Si une femme meurt en ne se faisant pas accoucher par un homme, elle sera tout aussi coupable aux yeux d'Allah que celle qui s'est suicidée. Des fois, il y a aussi des contraintes par rapport à leur emploi. Chez les paysans, par exemple, Hazrat Moussa Maoud a cité un exemple à ce sujet. Il a déclaré que les paysans ne pourront joindre les deux bouts tant que les femmes n'aident pas les hommes dans leurs affaires. Tout cela tombe dans la catégorie de « Illa ma zahra minha ». L'islam a accordé des libertés, certes, mais l'islam a aussi fixé des limites. L'islam n'a pas accordé de liberté totale. Il y a des permissions en raison de certaines contraintes. Il peut y avoir des compromis quant aux règles vestimentaires en islam. Or, il est tout aussi interdit de faire fi des commandements de l'islam sans aucune raison. L'islam interdit l'indécence au nom de la liberté. Le Messie premier l'islam évoquait la réflexion sur les aspects de la foi et le Muslim Aoud déclare à ce sujet, les aspects de la doctrine en l'islam reposent sur la réflexion. Il s'y trouve des sagesses subtiles. Tant que l'on ne comprenne pas ces sagesses, l'on pourra trébucher et des fois l'on pourra même s'égarer. Le Messie premier des Salam avait dit dans une réunion, « Si l'on fait preuve de taqwa, eh bien, l'on peut se marier même une centaine de fois. » Ceci a été publié dans un des journaux de la communauté et il y avait beaucoup de bruit à ce sujet et les gens disaient que la croyance du Messie premier des Salam est que l'on peut prendre plus de 4 épouses. Les hommes seraient contents d'entendre cela parce que le nombre d'épouses n'est pas limité à 4 selon ce dire. Hazrat Mir Nasir Nawab Saheb a présenté au Messie premier des Salam ses débats et ses controverses et lui a demandé des explications sur ce qu'il voulait dire en réalité. Le Messie premier des Salam a répondu, « Je voulais tout simplement dire que si l'épouse mourait ou s'il y avait divorce, pour quelque raison, l'homme pouvait se remarier. On pouvait ainsi se marier même une centaine de fois, selon ses conditions. » Il rejetait en fait l'opinion présentée par certaines religions. C'était là le contexte de ses propos. D'aucuns affirment qu'une décision a été prise sans prendre en considération le contexte. Le Messie premier des Salam, quant à lui, rejeter ici l'opinion en vogue dans certaines religions qui disaient que l'on ne pouvait se marier une deuxième fois même si son épouse est décédée ou s'il y a eu divorce. Après un mariage, l'on ne peut plus se marier, surtout si l'épouse est décédée. Voilà le contexte de ce sujet et le Messie premier des Salam rejetait ces opinions. Hazrat Musleh Maud déclare, si on n'expliquait pas cet énoncé du Messie premier des Salam, l'on aurait cru après quelque temps que le Messie premier des Salam croyait qu'on pouvait prendre un nombre illimité d'épouses et que la seule condition était la taqwa. Aujourd'hui, les hommes se marient une deuxième fois, une troisième fois, sans prendre en considération même l'aspect de la taqwa. La taqwa est la condition essentielle. Hazrat Musleh Maud déclare, je me souviens que le premier calife croyait pour un bon bout de temps que l'on pouvait prendre plus de 4 épouses. À l'époque, la Jamaat était petite et les gens se rencontraient souvent à Qadian. Il y avait très peu de gens et il y avait de longs débats sur ces questions. Un jour, on a discuté à ce sujet. Le premier calife disait que la limite au nombre d'épouses n'est pas fixé par la charia et il a présenté à la plus hardie d'Abu Daoud où il était mentionné que l'imam Hassan s'était marié 18 ou 19 fois. Quelqu'un de l'assistance déclara que le Messie premier des Salam ne partage pas cette opinion, après quoi le premier calife pensa que peut-être que cette affaire ne lui a pas été présentée dans son ensemble. C'est pour cette raison qu'il demanda à quelqu'un de présenter ce hadith au Messie premier des Salam. Ce hadith d'Abu Daoud, à propos de l'imam Hassan. Le Musleh Maud a dit que je rencontrai en chemin celui qui partait chez le Messie premier des Salam. Je l'ai rencontré en cours de route. Il avait l'ouvrage sous son aisselle et il avait l'air très content. Hadat Musleh Maud lui demanda « Où vas-tu ?» Il répondit que Maulvi Sahib m'a demandé de montrer cette référence au Messie premier des Salam. Hadrat Musleh Maud a dit qu'en voyant son enthousiasme et sa joie, moi aussi j'étais intéressé par la réponse et j'attendais sa réponse. Après quelques instants, j'ai vu que lui qui était parti très souriant revenait très triste, la tête baissée. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et il a répondu. Le Messie premier des Salam m'a dit de demander à Maulvi Saheb où est-il écrit qu'il s'était marié avec toutes ses femmes en même temps. Ainsi, l'affaire était close, à savoir que l'on ne peut pas avoir plus de 4 épouses en même temps. Et il y a aussi des conditions à respecter, et la taqwa, la piété, est la condition la plus importante. Hazrat Musleh Maud a déclaré qu'il faut obéir à l'imam en toutes circonstances. Comparé à l'appel de l'imam, l'appel des individus n'a aucune importance. Votre devoir est de répondre favorablement à l'appel du prophète de Dieu dès que vous entendez sa voix, et vous devez vous empresser à exécuter l'ordre qu'il a donné, car c'est en cela que se trouve la clé de votre succès. Même si vous êtes en train de prier et que vous entendez l'appel du prophète, Même si le disciple est en train de prier, il doit rompre sa prière pour répondre à l'appel du prophète de Dieu. Hadrat Muslim Maud déclare, « Par la grâce de Dieu, il se trouve parmi nous de tels exemples. » Le premier calife avait agi de la sorte une fois. Il avait rompu sa prière dès qu'il avait entendu l'appel du Messie Premier Islam. Il s'est empressé à répondre à cet appel. Il est fort probable que Mir Mahdi Hussein Saab et Mia Abdullah Sanouri avaient fait pareil. Voilà deux personnes qui avaient accompli cet acte à différents moments. Certaines personnes avaient des objections à ce sujet et le Messie Premier Islam avait répondu à ces critiques en citant ce verset. La tajalu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwa'dha. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adhabun alim. Ne considérez pas l'appel du messager parmi vous comme l'appel de l'un d'entre vous à un autre. Vous croyez que l'appel a été fait et que ce n'est pas la peine de lui répondre ou de lui répondre. Allah connaît ceux d'entre vous qui s'esquivent en se cachant. Alors que ceux qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les afflige ou qu'un châtiment douloureux ne les surprenne. Il est dit dans un autre endroit, « Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walil rasuli idha da'akum lima yuhyikum. » C'est-à-dire, « Ô vous qui croyez, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle afin qu'il vous accorde la vie. » Il est donc essentiel de répondre immédiatement à l'appel du prophète. Cela est une partie essentielle de la foi. C'est une action importante qui a trait à la foi, un grand signe de la foi. C'est pour cela que l'action de ces gens pieux était amplement justifiée. En présence du prophète, la prière n'est pas l'objectif véritable ou la vertu véritable. Le but réel en sa présence, comme c'est toujours, le but réel c'est d'atteindre Dieu et de faire preuve d'une obéissance indéfectible. Ce sont des exemples que nous voyons parmi les compagnons du Messie Premier Islam, ainsi que parmi les compagnons du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il y a un autre point important vers lequel Hadrat Muslim Maud attire notre attention. De tout temps, cela est important. Il déclare que le croyant ne doit pas toujours être dans l'attente d'un grand encouragement. Une simple indication doit lui suffire. En saisissant cette indication, il doit travailler avec un tel enthousiasme que certaines personnes sont persuadées qu'il est frappé de folie. C'est pour cette raison que tous les croyants parfaits dans le monde ont été traités de fous. Hadrat Muslim Maud déclare, qu'Allah nous accorde son pardon, j'avais un enseignant qui s'appelait Molvi Yar Muhammad Saheb, qui était l'un des compagnons du Messie Premier Islam. Il avait un trouble mental qui le poussait à croire que le Messie Premier Islam était son bien-aimé et qu'il était lui son amoureux ou son amant. Cet amour le poussa à croire que le Messie Premier Islam avait fait de lui son fils promis et le réformateur promis. En raison de son amour pour le Messie Premier Islam, il croyait qu'il était lui le fils promis, le réformateur promis. Des fois, le Messie Premier Islam, quand il parlait avec passion, il touchait sa cuisse de sa main de sorte que l'on aurait pu croire qu'il appelait quelqu'un de la main. Une fois, le Messie Premier Islam était en train de parler avec cette même passion. Molviyar Mohammed Saheb s'est précipité et parti s'asseoir à côté de lui. Quelqu'un lui a demandé par la suite, « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Il a déclaré que le Messie Premier Islam m'avait fait un signe de la main et ce signe était pour moi. Il me demandait de venir de l'avant. C'est pour cette raison que je me suis précipité. C'était là de la folie, mais il y a aussi d'autres types de folies qui sont positives. Sa passion ne l'a pas poussé vers la haine, mais l'a poussé vers l'amour. Donc, l'amoureux fou considère le moindre geste comme un signe qui lui est adressé. L'amoureux fou considère le moindre geste comme un signe qui lui est adressé. Le Messie promet l'Islam déclare « Pourquoi ce peuple qui dit aimer Dieu ne comprend-il pas l'indication qui lui est adressée ? Est-ce que l'amour des passionnés de notre Jamaat n'est pas égal à celle de Bolviyar Mohamed Saheb qui s'est précipité rien qu'à cause d'un simple geste du Messie promet l'Islam ? Il croyait que le Messie promet l'Islam l'appelait. Et ici, Dieu et son Messie sont en train de vous donner des indications claires, mais vous n'y prêtez pas attention. Il va falloir réfléchir à ce sujet. Nous devons analyser jusqu'à quel point nous sommes en train de comprendre les ordres divins et les indications de Dieu. Chaque action doit être conforme au commandement divin et chaque action doit être selon ses préceptes. Hadrat Moussa Maoud déclare on doit suivre les commandements de Dieu et il faut plaire à Dieu et pas plaire aux hommes. Le deuxième calife raconte Maulvi Ghulam Ali Saheb était un wahhabi rigoriste. D'après les wahhabites, la prière du vendredi est autorisée en Inde, alors que les hanafites n'étaient pas d'accord à ce sujet. Les controverses à cette époque étaient des plus farfelues. Ils disaient que la prière du vendredi sera permise que si les musulmans étaient gouvernés par un roi musulman. Et l'imam doit être un quasi musulman et l'on doit accomplir la prière du vendredi dans une ville. Comme l'Inde était gouvernée par les Anglais, le roi ni le juge n'étaient pas musulmans. C'est pour cette raison qu'ils croyaient que la prière du vendredi n'était pas autorisée. Mais étant donné que le Saint-Coran stipulait que lorsque l'appel à la prière du vendredi est fait, eh bien vous devez vous hâter vers le souvenir d'Allah et vous devez laisser de côté vos affaires. C'est pour cette raison qu'ils n'étaient pas convaincus. D'un côté, ils voulaient accomplir la prière du vendredi et d'autre part, ils craignaient qu'un hanafite n'émette de décret contre eux. Et pour se sortir d'affaires, selon leur routine dans le village, il accomplissait d'abord la prière du vendredi et ensuite il accomplissait la prière de Zohar. En pensant ainsi que si la doctrine concernant la prière du vendredi est juste, eh bien nous sommes saufs, et si la pratique concernant la prière de Zohar est aussi juste, eh bien nous serons saufs. C'est pour cette raison qu'il nommait la prière Zohar Ihtiyati, qui voulait dire une mesure de précaution. Il se disait que si Dieu avait rejeté la prière du vendredi, eh bien nous allons lui présenter notre prière de Zohar. Et s'il avait rejeté notre prière de Zohar, eh bien nous allons lui présenter la prière de Jumma. Et celui qui ne faisait pas la prière Ihtiyati était considéré comme un wahhabite. Le Messie promet l'Islam rapporte qu'une fois, il est parti à Gurdaspur en compagnie de Maulvi Ghulam Ali Saheb. Et en cours de route, c'était l'heure de la prière de Jumma. Nous sommes partis dans une mosquée. La pratique du Messie promet l'Islam était semblable à celle des wahhabites, car les wahhabis estimaient qu'il était obligatoire d'agir en fonction des hadiths. Ils croyaient que le salut ne peut être atteint qu'en suivant la sunna du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Donc il est parti avec Maulvi Ghulam Ali accomplir la prière du vendredi. Lorsque Maulvi Saheb a terminé la prière du vendredi, il a aussi accompli 4 rakat de Zohar. Le Messie promet l'Islam lui a demandé, « Maulvi Saheb, pourquoi avez-vous accompli ces 4 rakat après la prière du vendredi ?» Il a répondu, « Ce sont des rakat ihtiyati, des rakat de précaution. » Le Messie promet l'Islam a dit, « Mais vous êtes un wahhabite et votre doctrine est contraire à cela. Pourquoi donc avez-vous accompli ces 4 rakat ?» Il a dit que ce n'est pas une prévention qui a été prise par peur de Dieu, à savoir qu'il peut accepter ma prière du vendredi ou la prière de Zohar, mais je l'ai fait afin que les gens ne soient pas hostiles envers moi. Ainsi, il y a certaines personnes qui agissent comme Maulvi Ghulam Ali Saheb, à savoir, ils sont satisfaits d'avoir accompli la prière du vendredi, mais afin de satisfaire les autres, il accomplit 4 rakat de la prière de Zohar après la prière du vendredi. Lors d'une rencontre, quelqu'un avait dit au Messie promet l'Islam que la majorité des membres de notre Jamaat se rase la barbe. Il a répondu, « Le but réel, c'est l'amour de Dieu. » Lorsque l'amour de Dieu naîtra dans leur cœur, ils commenceront automatiquement à me copier. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre les paroles du Messie Promet al-Salam et que le véritable amour du Messie Promet al-Salam naisse en nous et que chacune de nos actions soit conforme au commandement de Dieu. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Mokaram Abdul Nour Jabi Saheb de la Syrie. Il était né en 1989 et il avait été arrêté par l'État syrien de toute apparence. Tous les détails n'ont pas été mentionnés ici, mais selon le rapport, il avait reçu son degré en business management récemment. Le 31 décembre 2013, il a été arrêté par l'État, par la police. La raison de son arrestation était que quelqu'un avait pris son téléphone pour téléphoner aux rebelles. C'était durant les premiers jours du conflit en Syrie, à une époque où l'on pouvait prêter son téléphone sans qu'on y objecte. En tout cas, un des rebelles avait pris son téléphone pour téléphoner à un de ses compagnons pour discuter sur une question d'argent. Et les services de l'État ont intercepté l'appel. Ils l'ont arrêté et après enquête, il a été prouvé que l'appel provenait de son téléphone et qu'il était en contact avec les rebelles. Il a été arrêté et il a été tué. Selon le rapport médical, le troisième jour de son arrestation, il est décédé des suites d'une blessure grave à la tête, car ces policiers de l'État font subir des tortures terribles. Et les rebelles et les policiers, les représentants de l'État, se comportent de la même façon. Le 22 février 2013, les membres de sa famille ont eu connaissance de son décès. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était le petit-fils de Salim al-Jabi Saheb, un ancien Ahmadi qui avait visité Rabwa à l'époque du deuxième calife et qui maîtrisait aussi la langue ourdou. Le défunt était une très bonne personne, très amicale, une personne qui possédait de bonnes qualités et qui était en très bonne santé, qui était très solide. Sa sœur, Hibatur Rahman Jabi, rapporte « Avant la naissance de mon frère, ma mère avait vu en rêve qu'elle avait donné naissance à un fils et on lui a dit qu'elle a donné naissance à la lumière. Par la suite, le quatrième calife a nommé son fils Abdul Nour. Elle dit que mon frère était très capable et était très obéissant et tous ont loué ses qualités et son intelligence. » Son frère lui avait dit lors de son dernier appel que si je suis un Ahmadi sincère, je dois pardonner les autres. En tout cas, qu'Allah exalte son statut et qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de sa famille endeuillés, à sa mère, sa sœur, son frère ainsi que son grand-père. Qu'Allah leur accorde patience et persévérance. Priez aussi pour la situation en Syrie. En raison des exactions commises par l'État, il y a ces groupes rebelles qui se sont rebellés et tous les deux sont en train de commettre des exactions. Et le troisième groupe, c'est Daesh, qui est en train de commettre d'autres exactions au nom de l'islam. Et toutes ces personnes de bonne nature qui vivent là-bas, eh bien, ces personnes ne sont pas à l'abri ni de l'État. L'État est tout aussi impitoyable. Et les rebelles sont tout aussi impitoyables et ceux qui ont établi un État au nom de l'islam sont tout aussi impitoyables. Et ce sont des personnes de bonne nature ainsi que les Ahmadis qui sont pris au milieu alors qu'ils ne soutiennent aucun de ces groupes. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde, qu'Allah ait pitié de ce pays et qu'Allah libère ce pays de ses infâmes.